Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été produit grâce au dévouement de nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Cela nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous aider en utilisant une application de podcast 2.0, telle que Breeze ou Fountain, pour nous écouter et nous streamer des sats. Sur ce, on vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et merci d'être sur La Ligne Orange, donc notre nouveau podcast d'interview où on rencontre différentes personnes dans l'écosystème Bitcoin. Et donc nous, on a fait une présentation dernièrement de notre projet Atakai, dont tu n'as peut-être pas forcément entendu parler, mais parce que c'est un peu différent, c'est même très différent de ce que toi tu fais, parce que nous, ça s'intéresse à montrer aux gens comment miner chez eux. Toi, tu mines à d'autres échelles. Et du coup, on pensait que c'était intéressant de t'avoir avec nous pour pouvoir avoir la vision de quelqu'un qui travaille dans l'industrie de Bitcoin avec des échelles beaucoup plus grosses et de voir tout ce qui est rentré en compte dans le minage à ces échelles. Donc moi, je mine chez moi, mais je n'ai pas toutes les tenants et les aboutissants, je dirais, de ce qu'il faut pour faire fonctionner une ferme de minage. Donc, je sais qu'on voit beaucoup ces containers qui sont branchés. Donc, voilà, j'ai peut-être des questions qui pourront intéresser l'audience sur la manière dont ça fonctionne. Donc, déjà, je ne sais pas si tu as des choses que tu voudrais... Je ne sais pas si on a besoin d'expliquer au public ton entreprise, ce que tu fais. Peut-être que tu peux te décrire un tout petit peu pour les personnes qui n'auraient pas suivi ton parcours jusqu'à présent, et après ouais. on pourrait continuer.
Ouais, vite fait. Nous, on est donc moi je dirige deux entreprises que j'ai cofondées, et qu'on est quatre associés en tout. Et donc il y a Big Block Data Center qui fournit les machines. Donc on est un gros broker de machines. On a notre client principal qui est BBGS, donc la deuxième société qui gère le parc. Et notre propos chez BBGS, c'est d'ouvrir des fermes dans des endroits en gros, nouveau, de trouver des sources d'électricité en extra capacité pour pouvoir les acheter pas cher. En gros, notre boulot, c'est d'aller convaincre les compagnies d'électricité dans ces pays-là, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Europe de l'Est, de nous vendre des mégawatts perdus. C'est-à-dire qu'ils ont un surplus qui est là, qui est valorisé zéro, et on leur dit, ce surplus-là vaut 2 millions à l'année, tac, laissez-nous nous installer chez vous. C'est ça notre taf, en fait.
Okay. Voilà.
Et après, la mise en œuvre des conteneurs, le conteneur, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ouais. Hein, tu as toute la partie technique en amont, les poteaux, le câble, les transformateurs qui te permettent de créer ta ferme et de connecter le conteneur.
Ouais, ça, c'est ce qu'on comprend. Donc, effectivement, on a une source d'énergie avec des surplus. Donc, vous positionnez les machines à côté de ce surplus. Et donc,
au plus près de la centrale, hein, toujours le plus près qu'ils peuvent nous installer. Ouais.
Ok. Et par exemple, dans un de ces containers, il y a combien de machines environ? Parce que j'imagine que, peut-être que je me trompe, mais que vous minez avec des S19 ou des gammes similaires en
ouais,
tout cas,
termes de... toutes sortes de gammes. Alors les conteneurs, les gros conteneurs 40 pieds, on mettait 500 S9.
D'accord.
Et quand on a viré les S9, quand on a mis des S19, c'était 350 S19. C'est ce qu'on met pour un 40 pieds.
Okay.
Et de plus en plus maintenant, on fait l'essai avec des nouveaux conteneurs, des petits 20 pieds là où on met 200 S19. Hein.
200 S19.
Ouais. C'est des 20 pieds télescopiques, tu te les fais livrer plat là comme une planche, et tu tires dessus vers le haut, et hop, ça te fait un conteneur de mining. T'as plus qu'à mettre tes étagères et puis installer ton électricité. Bon, c'est chinois donc il faut refaire toute l'électricité, c'est pas terrible, mais le conteneur lui-même est facile à transporter comme ça, c'est une bonne idée.
D'accord. Et du coup aussi une question qui me vient, puisque c'est quelque chose qu'on voit, que moi aussi je maîtrise moins, c'est l'immersion. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites?
Oui, ça on le fait à Oman. Alors ça, les premiers tests d'immersion cooling, nous on les a fait en 2017 à Odessa, en Ukraine, là, dans notre première ferme.
D'accord.
Et on avait vu que ça marchait bien, mais à l'époque, le liquide qui sert au refroidissement, là, l'espèce d'huile, là, ça n'existait que fait par 3M. Et l'huile était hyper chère. Et maintenant, ça c'est le brevet est rentré dans le domaine public. Donc maintenant, tu trouves de l'huile pour faire de l'immersion cooling relativement bon marché. Mais l'idée, c'est de se servir de ça quand il fait très chaud. Et nous, on a le test à Oman. Là, il fait quand même pas froid. Hein. Et ça marche pas aussi bien que ce qu'on pouvait imaginer. En tout cas, les données constructeurs de nous, on travaille avec la boîte polonaise, là, qui est les plus gros spécialistes en Europe de l'immersion cooling, là, c'est DCX. Et ils nous annoncent, par exemple, 10 machines dans un bac, et là-bas, à Oman, on en mettrait que 9, quoi, tu vois, sinon l'huile devient trop chaude.
Okay.
C'est en train de se caler techniquement. Mais en tout cas, oui, une chose qui est certaine, c'est que tu travailles à des hautes températures, donc au Moyen-Orient, là, avec des températures à 45 degrés, c'est très difficile de miner. Même.
Donc ça, c'est une des limites pour toi, c'est le prix de l'huile.
Et plus trop maintenant le prix de l'huile,
plus
vraiment,
trop maintenant, mais ça l'était en tout cas.
Le fait que si tu mines là où il fait 40 degrés, il faut des énormes échangeurs, donc finalement ça consomme aussi de l'énergie, de l'eau. C'est pas la panacée universelle qu'on pouvait envisager. Ouais. Dès qu'il fait très chaud, ça reste compliqué de miner. Et à l'air, c'est totalement impossible sur des ASIC traditionnels, mais en immersion, avec la version de Bitmain, là, ils ont fait des machines hydro. Là. On est allé visiter la grosse ferme où ils ont je ne sais combien de conteneurs clés en main de chez Bitmain en hydro. Là, ça marche pas, quoi. Ça marche pas du tout. Ça marche parce qu'eux, ils ont un accès à l'eau gratuit, c'est les autorités du coin. Mais s'ils devaient payer l'eau pour refroidir, ça serait pas rentable.
D'accord.
Donc on n'a pas encore fait le tour, on n'a pas encore la solution idéale, parfaitement maîtrisée pour travailler sur des très très hautes températures dans le Middle East, ça c'est sûr.
D'accord. Et à l'échelle du monde, l'immersion ça reste pour l'instant une niche ou c'est quelque chose de développé ?
Non, c'est développé. Hein. J'ai vu chez Riot, là, ils ont presque la moitié de leur production qui est en immersion maintenant, hein, chez Riot Mining. Donc, c'est une solution qui est intéressante. Hein. Les machines ne montent pas en température, ne subissent pas l'attaque des poussières, parce qu'à l'air, tu es en contact direct avec l'air, donc elles se chargent en poussière les machines. Il faut vraiment hyper bien filtrer son air. Et malgré ça, ça crée quand même une corrosion. On peut penser que les machines finiront par s'abîmer, même si on a des S9 qui ont plus de 6 ans maintenant. C'est quand même inusable, hein, ces bécanes. Mais dans l'immersion, on peut penser que ça sera sans fin, leur vie. Quoi.
Okay.
On verra.
Ouais. On verra l'évolution. D'ailleurs, on parle souvent des S19, des S9. En tout cas, moi, je sais que c'est ce que je maîtrise le mieux et ce dont je parle le plus. Il y a d'autres constructeurs d'ASIC sur le marché. Notamment les Watts Miner. Est-ce que toi, tu vois des machines avec des performances plus intéressantes ? Est-ce qu'il y a une contrainte technique à utiliser un fabricant plutôt qu'un autre ?
Alors, il y a des différences essentielles entre Watts Miner et Bitmain. C'est que le Watts Miner, il n'a qu'un ventilateur, il est beaucoup plus petit et beaucoup plus léger. Et donc, quand tu fais comme nous la logistique à fond, hein, que tu envoies des machines à l'autre bout du monde, le fait qu'ils soient 40% moins lourds et deux fois moins gros, c'est une économie importante. En termes de performance, c'est aussi bon et les techniciens nous disent que ça tombe moins en panne, que c'est plus solide. Et en termes de logistique, c'est plus fiable parce que le Watts Miner tient ses engagements alors que Bitmain ne les tient jamais. Hein. C'est un truc, Bitmain, ils te disent livraison dans 2 mois, ils te livrent 6 mois après une machine beaucoup moins puissante que ce qu'ils t'avaient vendu. Sans aucune excuse, sans te dédommager, ou alors ils te donnent 30 balles, tu vois. Mm-hmm. J'ai commandé un 117 Tera, j'ai reçu un 102, tiens, voilà 30 balles. Voilà, donc, de plus en plus, si on peut éviter de bosser avec Bitmain, on le fait.
Okay.
Et on avait essayé, il y a 2 ans, on avait commencé à bosser pas mal avec Canaan, et c'est encore plus pourri que Bitmain en termes de service.
Okay.
Donc là, en ce moment, le meilleur, c'est Watts Miner, tous les mineurs le savent. Hein.
D'accord. Et c'est vrai que voilà, moi, je maîtrise moins, je vois moins le fonctionnement de ces machines, donc c'est assez intéressant de voir que justement à une échelle différente, les machines, les contraintes qu'on a sont différentes. Et j'aurais pas pensé à celle-là.
Mais la contrainte logistique est vraiment nous donne un regard sur Watts Miner qui est déjà est positif parce qu'ils nous font économiser 40% du transport en étant moins lourd et moins encombrant.
Ouais, bien sûr.
Donc déjà on a envie de se dire ça va être bien ça Watts Miner et les techniciens nous confirment que c'est bien. Donc,
ça semble logique du coup.
Voilà. Donc en ce moment on privilégie beaucoup plus du Watts Miner que du Bitmain. Depuis 6 mois on n'achète même plus que ça. Hein.
Ok.
Pratiquement plus que ça. Hein.
Et moi, une raison pour laquelle je connais plus les machines de la marque Bitmain, c'est parce que les possibilités de modification qu'il y a sur les machines.
Ouais, c'est vrai, on confirme parce qu'à Oman, on a du Bitmain, parce qu'on sait qu'on peut intervenir sur les firmware beaucoup plus facilement.
Ouais.
Il y a déjà du recul.
Et ça, du coup, c'est quelque chose qui est pas encore possible sur Watts Miner.
Ils nous disent que si, mais il y a tout un tas de choses où ça arrive après Bitmain. Ouais. Donc là, actuellement, ce que vous faites, vous, je pense que sur Watts Miner, c'est pas encore jouable, mais ça va venir.
Intéressant. Et du coup, bah, je profite aussi d'une annonce, donc peut-être que tu n'as pas plus d'éléments que moi là-dessus, parce qu'on a, donc on est au Bitcoin Economic Forum, qui se déroule en même temps que Bitcoin Miami, qui est tout le temps le moment où plus.
Il y a des grosses annonces.
Il y a des grosses annonces, ouais. Exactement. Donc on suit ça un peu de loin. Et notamment, il y a eu une annonce que moi je décrypte pas totalement encore sur ses implications. Et peut-être que toi tu es capable, c'est l'annonce de la part de Brains, la fabrication d'une control board par Brains directement. Et du coup, moi la question que je me pose quand je vois ça, c'est quels seraient les avantages d'avoir un constructeur externe pour une control board. Est-ce que aujourd'hui il y a des limitations sur les control boards qui pourraient pousser la recherche et le développement sur quelqu'un d'autre?
Bah, en tout cas, c'est pas nouveau hein, qu'il y ait des possibilités de booster la puissance des machines. Là, c'est Brain, c'est très très sérieux. Les mecs, ils sont vraiment pointus techniquement. Ça fait hyper longtemps qu'ils travaillent sur la possibilité justement de booster les avec des firmware. Cette carte-là, enfin moi je l'ai découvert comme toi, hein. C'est ce matin que Jean-François, mon associé, m'en a parlé. Ça fait rêver, on va voir ce que ça donne, maintenant il faut essayer. Hein. Mais pour l'instant, c'est que sur du Bitmain. Donc tu vois, là encore, vaut mieux acheter du Bitmain si on veut installer ce procédé-là. Hein.
C'est ça, bah, je vois que c'est...
Mais il y a toujours une limite, nous, on le voit. Hein. C'est-à-dire qu'on voit qu'on peut booster, par exemple, à Oman, en immersion cooling, on peut monter des S19 qui font 100 TH, on peut les monter à... Je dirais n'importe quoi, 130 par exemple. Mm-hmm. Mais en fait, ça crée beaucoup, beaucoup plus de chaleur, ça consomme plus, et du coup, bah, vaut mieux les redescendre à 100. Il y a des... Et ça dépend des moments, en fait. Ça dépend à combien rapporte le mining à un moment T. Ça dépend du hash rate et du prix. Il y a des moments où tu peux booster les machines, ça vaut le coup, parce que ça crache à fond. Et il y a des moments où les marges sont inférieures, donc il vaut mieux consommer moins d'électricité, et du coup, réduire la capacité de ta machine. Donc ça s'ajuste. Les gars, ils passent leur temps à ajuster la puissance des machines en fonction de ce que ça rapporte à un moment T.
Et toi, dans ton calcul, j'imagine ce que tu utilises comme pour pouvoir observer ça, ça va être le hash price. Je sais qu'en tout cas dans l'industrie, c'est beaucoup ce que j'entends être observé par les mineurs pour justement un peu faire leur calcul économique sur le fait d'allumer ou de booster leur machine. Est-ce que c'est ça que...
Bah, en fait, si tu as une machine qui consomme, je dis n'importe quoi, 1000 et qui te donne 100 TH, et pour la faire atteindre 130 TH, il faut qu'elle consomme 2000. Mm-hmm. Si tu as une électricité très peu chère et que le mining est très rentable à ce moment-là, tu boostes tes machines à fond. Ouais. Et il y a des moments où c'est ultra tendu, comme en ce moment, hein, depuis 18 mois, là, les marges sont très très faibles. Donc c'est pas le moment de booster la consommation de ta machine, même si elle rapporte 30% de plus. Au bout du bout, la marge est moins intéressante pour le mineur. Donc vaut mieux travailler plus doucement et consommer moins d'électricité qui est cher. À un moment, le Bitcoin n'est pas cher.
Okay.
Et ça, cette réalité-là peut être complètement différente dans 3 mois ou dans 6 mois. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir la capacité de savoir que tu peux booster tes machines.
Bien sûr. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai trouvé étonnant en commençant à miner même à une échelle individuelle, c'est ce calcul de profitabilité. Arriver tous les facteurs qui rentrent en compte en fait pour voir est-ce que c'est rentable ou non de miner et tout ce qui vient changer en fait ce que le mineur récupère va récupérer de l'autre côté et c'est vrai qu'aux échelles avec lesquelles toi tu mines, ça doit être du coup des calculs encore plus complexes, en tout cas avec encore plus de
on s'en met plus à calculer, on est capable de calculer, on sait sur les simulateurs la profitabilité à un moment T. Et du coup on s'en sert pour se projeter à un an. C'est-à-dire qu'on estime qu'on multiplie par 365 ce que nous donne le chiffre du jour. Ouais, okay. Mais on ne tient absolument pas compte ni du halving à venir, ni de rien en fait. Quoi. Donc se projeter dans le mining, c'est extrêmement difficile. Nous, au début, on l'avait fait avec Accuracy. Nous avions fait des tableaux croisés dynamiques pour savoir où on en serait dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Tu regardes ça a posteriori, tu dis, bon, ça, autant rien faire. Quoi. Personne ne s'attend à ce que le Bitcoin, d'un seul coup, monte à 69 000 $. Là, c'est... Donc, c'est faire des plans sur la comète. Mmh. Alors, tu peux te fixer des... se projeter permet de savoir où ça peut aller au plus haut et où ça peut descendre au plus bas. Mais en fait, tu te rends compte que le plus haut est pratiquement infini et que le plus bas, ça peut être zéro. Rien ne nous garantit que Bitcoin ne sera pas à 0 $ ou à 1 $ demain. Donc, c'est très difficile de se projeter. Nous, on le dit toujours, il n'y a qu'une règle. Hein. Il n'y a qu'une conviction qu'on a, c'est que nous, le Bitcoin ne sera jamais mort. C'est incassable. Et qui peut tout à fait baisser en prix, on s'en fout si on est ceux qui payent l'électricité la moins chère. Mmh. C'est la fameuse règle du dernier survivant. Voilà, l'idée, c'est de se mettre à l'abri des fluctuations de hash rate et de prix en étant toujours en capacité de miner. Et donc, il y a un moment où les gens qui sont à 6 cents, ils sont étouffés. D'autres, après, ça continue à chuter le prix à 5 cents, c'est étouffé. Tu te dis, si moi, je suis à 2 cents, je serai le dernier à être étouffé. Quoi.
Mmh, je comprends.
Donc, c'est notre seule stratégie, c'est d'aller choper du mégawatt pas cher et surtout avec une régularité du prix. Tu vois, ce qui est arrivé à Corps Scientifique, là, où ils se sont retrouvés coincés comme ça, c'est parce que le prix de leur électricité a bondi avec l'explosion du prix de l'énergie aux États-Unis. Comme ils sont sur le réseau, ils ont subi les augmentations. Ce qui n'est pas le cas de Riot Mining, qui avait mieux négocié ces trucs et qui s'était garanti un prix sur le long terme. Donc ça, c'est des trucs de noobs. Hein. Corps Scientifique, c'est juste la plus grosse boîte de mining du monde, mais c'est des noobs. Ils n'ont pas pris les bonnes précautions.
Mais ça montre la compétitivité aussi qu'il y a dans ce milieu.
Ah, c'est une compétition acharnée, bien sûr. Hein.
C'est vraiment étonnant, je trouve, de voir vraiment la compétitivité contre tous les mineurs à travers le monde et comment un acteur qui est pourtant énorme peut être écarté juste à cause de quelques décisions qui ont été les mauvaises.
Parce que vraiment, c'était pas des bitcoiners. Le truc, c'est que là, t'as les patrons de Corps Scientifique, hein, c'est un patron d'une chaîne de restaurants avec des financiers de New York qui ont levé 5 milliards d'euros pour faire du mining. Il dit, tiens, on a trouvé l'argent, maintenant on achète les machines, on les branche sur le réseau aux États-Unis. Ils sont passés complètement à côté de la recherche des surplus et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent coincés. Mais tant mieux, nous on adore ça, hein, qu'il y ait des nouveaux acteurs énormes, hyper riches, bien sur deux, qui se cassent la gueule comme ça. Ça montre que notre savoir-faire a un petit peu de valeur ajoutée. Tu vois. Il ne suffit pas d'avoir du pognon, de brancher des machines, de dire regardez, on est les plus gros. Non, il ne faut pas être juste les plus gros, il faut aussi être les meilleurs.
Et aussi, un autre facteur qui est assez étonnant dans le monde du mining, qui doit encore plus rentrer en compte à des grosses échelles, c'est le prix des machines.
Ouais.
Qui fluctue énormément et qui, si je ne me trompe pas, ou en tout cas sur certaines périodes, suit le prix du Bitcoin.
Tout à fait.
C'est drastiquement.
C'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, ton ASIC, il se vend, le prix de ton ASIC, il est corrélé à ce que tu attends de sa production. Donc en fait, tu fais ta fameuse simulation sur ton simulateur et ça te donne le prix de ton ASIC. En fait. C'est comme ça qu'il est calculé par tous les brokers qui font le marché. Donc effectivement, il y a des moments où tu vas acheter un S19 à 1 400 $ et puis des moments où tu vas l'acheter à 10 000 $. C'est comme ça. Donc nous, c'est moi qui fais les achats, tu vois, c'est une de mes responsabilités au sein de la boîte. C'est un casse-tête de se dire, j'achète cette semaine, j'ai l'argent des clients. Je me dis que si ça se trouve, là, ça va chuter encore le Bitcoin et il vaut mieux que j'attende la semaine prochaine. Manque de pot, la semaine d'après, il a pris 15% et du coup, les machines réaugmentent en prix. Tu vois. Et dès que le Bitcoin augmente, les machines augmentent en prix. C'est presque systématique, immédiat.
Et à la baisse?
Et à la baisse, non. À la baisse, t'as un plus longtemps de... il faut souvent, en 3 semaines, t'as le cours qui baisse et là, les machines commencent à baisser au bout d'un moment. Quand les brokers voient qu'ils font plus de ventes, et ils abandonnent et ils baissent leur prix.
Donc t'as une inertie...
T'as une inertie
à la baisse, mais pas à la hausse.
Beaucoup moins à la hausse. Alors, on a vu une inertie à la hausse, là, récemment. C'est la première fois qu'on voyait ça. C'est-à-dire que le cours, quand il est remonté là, en début d'année, tac, le prix des machines n'a pas bougé. Et ça, c'est la première fois qu'on voyait ça. Donc, ça peut-être parce qu'il y avait un énorme stock disponible et que finalement, le marché ne permettait pas d'augmenter. Mais là, on a fait des très bonnes affaires depuis le début de l'année parce qu'on continue à payer les machines. Très bon marché.
Tu dois
le voir, hein, tu les payes pas cher en ce moment.
Ouais.
Alors que la rentabilité est bien meilleure qu'il y a 4-5 mois. Quoi.
Et d'ailleurs, cette inertie dont on parlait, elle montre à quel point c'est une vision quand même assez long-termiste qu'il faut avoir sur le minage parce que. Moi, mon analyse, quand je vois la hausse du hash rate actuel, malgré un prix du Bitcoin qui est descendu, c'est parce que, en tout cas, toutes les personnes que j'ai écoutées sur le sujet expliquent que, en fait, c'est des commandes qui ont été passées
à un moment
où le prix du Bitcoin était très élevé.
Et surtout les grosses fermes là, qui commandent d'un seul coup 20 000 machines.
Ouais.
Bitmain met 6 mois à les livrer. Donc, effectivement, là, ils arrivent d'un seul coup, ils installent un énorme hash rate. Et tu te dis, mais pourquoi maintenant? C'est pas le. Tu vois? Mais oui, il y a une inertie énorme. Quand ils font des très grosses commandes comme ça, il faut du temps à Bitmain ou à Whatsminer pour les fabriquer. Ouais. Donc oui, cette inertie compte. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a des mineurs, ils grossissent. Quoi qu'il se passe sur le cours, ils s'en foutent. Hein. On continue à créer des fermes. Nous, on a continué à créer des fermes en 2019. C'était plus dur parce qu'on avait plus de mal à lever de l'argent, mais notre confiance était la même.
Et aussi, j'ai une question, parce qu'on parle du coup des acteurs, on voit qu'il y en a un nombre réduit, Bitmain, Whatsminer, la plupart des entreprises sont, en tout cas la plupart sont en Chine.
Oui, tout est en Chine, hein, tout est en Chine, toute la fabrication, enfin tout l'assemblage des ASIC est en Chine.
Est-ce que ça, plus à une échelle, dans une certaine mesure, tu vois ça comme un point de centralisation? du réseau. C'est le fait que la production soit uniquement chinoise.
Ah, c'est un des vrais dangers pour moi. Moi, j'ai toujours vu deux dangers. C'était l'hyperconcentration du mining en Chine, à l'époque où ils avaient presque 60% du mining. Et puis le fait que ce soit le seul pays au monde qui produit des ASIC, c'est extrêmement dangereux. Imagine Xi, là, il pète les plombs et il décide de fermer toutes les usines de mining, de fabrication d'ASIC. Il peut, hein, c'est tout dans son pays.
Ou de la récupérer, voilà, fin de.
Donc il y a plus rien, il y a plus un ASIC qui sort jusqu'à ce que les autres aient eu le temps de récupérer les chips, parce que les chips ça viennent pas de Chine par contre. Okay. Donc on pourrait tout à fait envisager en France, on le propose depuis 2018, d'assembler des ASIC ici, de récupérer un petit fabricant chinois. Il y a 18 fabricants en Chine, il y en a 3 connus, Canaan, Watsminer et Bitmain, mais t'en as 15 qui sont pas connus du tout et qui fabriquent. En fait, ils copient Bitmain. Chinois quoi, hein. Ils copient le fabricant et ils te sortent une machine au même prix, souvent un peu moins performante, mais tu peux prendre le savoir-faire de ce mec-là et fabriquer des machines en Europe et ne pas respecter cette règle des brokers qui consiste à faire augmenter ton prix de machine quand le prix du Bitcoin augmente. Tu peux tout à fait décider que ta machine coûte 1000 balles à produire, que tu la vends 3000 et que quand les autres vont se mettre à la vendre 7000, ben toi tu la vends plutôt 4000, tu vois, et prendre une grosse part de marché. En tout cas, ça enlèverait cette épée de Damoclès parce que encore une fois, Xi décide de couper les usines d'ASIC et on a de quoi tenir, hein, avec le marché actuel des ASIC, tu peux tenir 10 ans. Hein. Mais ça serait un sacré coup au moral des bitcoiners de se dire, il n'y a plus de nouveaux hash rate qui arrivent, qu'on ne vit que sur nos acquis, jusqu'à ce qu'un fabricant européen, américain, Blockstream est dessus depuis 2 ans, là, arrive à sortir un ASIC.
On entend parler effectivement d'initiatives, après je ne connais pas leur état exact, notamment Intel. Qui se lance dans la production.
Intel,
c'est terminé.
Ouais, c'est fini. Ça m'a fait trop rire. Comme d'habitude, la presse, la puce Intel est 3 fois plus performante et tout ça. Mais elle n'existe pas encore. Ouais. Les mecs, ils disent, oui, mais regardez, ça va produire tant. En fait, t'avais une boîte qui a monté du mining aux États-Unis et qui, comme argument pour être enregistrée à la SEC, a dit, à la SEC, a dit, nous, on va marcher avec les machines de chez Intel qui vont produire tant et tout ça. Et donc, toute la presse a repris, en fait, leur plan marketing, mais avec des machines qui n'existaient pas encore. Et du coup, Intel a renoncé, tu vois. Donc, encore un gros FUD à Bitcoin. Mais par contre, Blockstream travaille sur le sujet depuis longtemps. Et là, il y a une nouvelle boîte qui a dit qu'elle allait fabriquer des ASIC. Là, je ne sais plus où c'est, aux États-Unis aussi. Mais c'est long parce que les mecs, ils ne veulent pas faire ce que je te dis là. C'est-à-dire aller chercher le savoir-faire d'un petit fabricant chinois pour copier les Chinois. Ils veulent faire mieux que les Chinois. Donc Adam Back, il veut faire une machine ASIC plus petite, plus compacte, plus performante. Mais il me dit... pas avant 3 ans, tu vois. Et moi, je trouve que c'est maintenant qu'on aurait besoin d'amener un concurrent aux Chinois. Plus vite ça arrivera, plus on aura cette menace, pour moi, qui disparaîtra. Et c'est marrant parce que les bitcoiners dans le monde ne voient pas cette menace. Quoi.
Ouais.
Et en général, le mining, les bitcoiners, ça les intéresse pas trop. Quoi.
Et pourtant, c'est quand même une partie essentielle de son fonctionnement. Et
Nous, quand on est arrivé quand on s'est fait connaître sur le marché français, ça faisait un moment qu'on étudiait le bitcoin avec JF. Quand je suis arrivé aux premières réunions du Cercle du Coin, projet de mining, j'étais un rigolo, quoi. Je suis des cons, quoi, les gars. Ça sert à rien. C'est les Chinois qui ont le mining. Faut pas s'y intéresser, quoi. C'est déjà mort. Le mining en France, tout le monde le sait. C'est mort. C'est trop cher.
Ah, non. Ouais.
Mais c'est vachement important. Oui, le mining, c'est le nerf de la guerre. Donc, moi, c'était à ça que je voulais m'attaquer.
Et d'ailleurs, bah, tu parlais un peu de votre histoire. Et est-ce que, enfin, sur quelle machine, toi, à quelle partie de l'histoire du mining t'es arrivé? Quel type de machine a été ta première avec laquelle t'as miné? Parce qu'il y a eu une histoire assez rapide au final.
Ah ouais, la progression des ASIC. Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais on a un de nos associés, Thomas Charbonnel, là, qui est au Virunga en ce moment, depuis des mois. Lui, il minait dès 2013. Donc lui, il a connu tout. Il a une vraie collection d'ASIC chez lui, des petits machins comme ça, des ronds. Hein. Et nous, on a commencé avec des S9 avec JF, les premiers modèles qu'on a eu. Puis après, on a même récupéré des S7 et tout. Mais c'était l'époque du début des S9, ouais. 2016, quoi.
OK. OK, 2016. Et est-ce que tu penses qu'on va avoir une progression dans le futur, dans les nouvelles machines, aussi drastique qu'on a eu par le passé?
Il semblerait que non. Hein. À un bout d'un moment, la loi de Moore s'étouffe un peu, tu vois. Apparemment, la réduction des puces arrive à une limite. Il est fort possible qu'on ne voit jamais des machines avec cette même technologie ASIC qui fassent des 1000 terrages, tu vois. Il est possible que non, qu'on arrive assez vite à une butée. Enfin, déjà, le progrès est juste dingue. les premiers S9, c'était 14 terrages, tu le disais ce matin. Là, les machines maintenant sortent à 140 terrages, mm-hmm. avec deux fois plus de puissance installée. Donc, une amélioration énergétique d'un facteur 5, c'est incroyable. Ouais, Toutes les autres industries regardent ça en disant, bah, oh putain, c'est allé super vite, quoi.
Ouais, l'innovation a été incroyable, mais c'est vrai qu'on voit un ralentissement année après année.
Mais c'est toujours par cycle, tu vois. Une fois qu'on a eu le S9 qui est sorti, le progrès a été beaucoup plus difficile après. Mm-hmm. Tu vois, les S17, t'en parlais ce matin, péniblement 50 TH avec des machines qui marchent pas. Donc c'est des seuils techniques comme ça. Il est possible que ces pas de géant qui ont été faits entre le S9 et le S19, on puisse pas les reproduire, je pense pas. Moi. Ouais. Je pense pas. Mais en revanche, il y aura peut-être deux nouvelles technologies que l'ASIC, hein, qui permettront de faire un mining beaucoup plus puissant. Tout est possible. C'est pour ça qu'on n'est jamais au bout de nos peines, hein, dans ce métier-là. T'as des événements extérieurs qui s'imposent à toi, auxquels tu t'attendais pas du tout. Tu vois, comme le ban chinois, tu vois, pendant, tu vois le hash rate s'écrouler de 60%, mais nous, on est là. Mais merci, mon Dieu, que c'est pas possible, quoi. Tu vois, ça fait des années qu'on nous annonce la fin du mining chinois. Moi, je dis à chaque fois, bah, c'est du FUD, c'est conneries et tout. Puis là, d'un seul coup, c'est vrai, quoi. Mm. Ça, c'était chouette. Et de la même manière que tu peux te retrouver demain avec une technologie qui fait que notre parc de S19, il est complètement ringard et qu'on est comme des cons avec nos millions de matériel. Alors qu'il y a un nouveau gars qui sort une nouvelle machine à 10 000 balles qui représente l'équivalent d'un conteneur. Tout est envisageable. Mais ça a tellement changé en très très vite. Ouais, la puissance qu'on a aujourd'hui, on regardait ça en 2017, on était le plus gros mineur du monde. Tu vois,
bien sûr.
Et nous, on essaye toujours de grossir dans le pourcentage du hash rate mondial. Et nous, on grossit quand même très très vite. Hein. Donc, on grossit beaucoup moins vite que le hash rate. Mmh. C'est-à-dire que notre pourcentage du hash rate mondial a tendance à se réduire alors qu'on grossit hyper vite. On n'arrive pas à grossir aussi vite que le hash rate mondial. Mmh. Tu vois, là, depuis 18 mois, ça a fait x3. Hein. C'est dingue. Hein.
Ouais, non, mais c'est incroyable. D'ailleurs, voilà, un moment où, et ça vient encore plus couper les profits pour plein de personnes, et donc ça le rend toujours plus compétitif.
Ah ouais, bien sûr. Hein. T'as pas de rente, hein, en étant mineur de Bitcoin. C'est pas une rente du premier arrivé comme il peut y avoir dans l'économie traditionnelle avec le capitalisme de connivence, tout ça, là. Tout le monde a sa chance dans le mining de Bitcoin.
Et une question où ça, c'était purement une spéculation de ma part, mais j'imaginais, comme on disait, peut-être les innovations futures qu'il pourrait y avoir sur le mining, et peut-être que tu peux me donner ton avis. Est-ce que tu penses qu'un jour, on aura une utilisation du stockage d'énergie couplé à du mining? Est-ce que c'est quelque chose qui ouais. pourrait être possible?
Oui, c'est déjà le cas sur du solaire. La problématique, c'est le stockage de l'énergie. Et ça, on n'y arrivera jamais. Hein. On parle de batterie, de stockage pour le renouvelable et tout ça, mais ça marche pas, les batteries. On n'arrive pas à stocker suffisamment d'énergie pour que ce soit cohérent. Hein. Même les batteries les plus performantes, si tu veux, c'est un tel délire en termes de matières premières pour les construire. C'est tellement polluant que pour moi, c'est pas la bonne solution. Enfin, de toute façon, ça fait 10 ans qu'on nous parle d'un stockage qui sera abouti dans les années 2020. C'est pas du tout abouti. Mmh. C'est pas du tout abouti. Tu mets une pièce entière comme ça remplie de batteries, tu tiens quelques heures, quoi. Non, pour moi, le mining, je sais pas quel sera son avenir. Ça va dépendre de comment c'est accueilli dans les pays. Si la lutte à mort là de certains gouvernements a tendance à se généraliser, peut-être qu'on reviendra à un mining que à la maison, caché, tu vois. On ne sait pas de quoi ça sera fait demain. On est dans cette phase de bataille que Yorick de Montbine avait décrit il y a déjà 2-3 ans. Et il avait écrit un papier où il donnait 3 scénarios possibles de résistance des États à Bitcoin. Et là, en ce moment, on est vraiment dans ce moment-là, là où c'est une lutte à mort. Hein. Voilà, on a vu l'Union européenne, enfin la Commission européenne qui a essayé d'interdire la proof of work. Aux États-Unis, Biden qui veut surimposer les mineurs. Il y a une bataille, quoi. Donc on ne sait pas de quoi sera fait la vie du mineur demain. Ouais.
Et tu l'évoquais un tout petit peu, mais je sais que toi tu vois le mining comme une opportunité écologique.
Bah bien sûr, ça. Bon, enfin, si on estime qu'on veut aller de plus en plus vers le renouvelable, se passer des hydrocarbures, voire se passer du nucléaire, tu auras forcément besoin de cette batterie économique. C'est indispensable, bien sûr, parce qu'il faut beaucoup plus de puissance installée en renouvelable. Si tu veux faire tourner un pays qui consomme 100, avec des énergies pilotables, c'est-à-dire avec les hydrocarbures et le nucléaire, bah, il te faut une capacité de production de peut-être en puissance installée de 150. Là, pour avoir une consommation de 100, il faut une puissance installée de 400 avec du renouvelable. Donc, tu as une capacité de produire beaucoup plus. Et par moment, si tu peux rentabiliser ça en vendant aux mineurs, c'est mieux. Sinon, c'est le renouvelable, c'est, on le voit bien, c'est des subventions, des subventions, des subventions. Tout est fait avec des subventions. Les champs éoliens, solaires, dans le monde entier, sont faits avec des subventions européennes, de l'ONU, de ce que tu veux.
C'est pas un marché qui est neutre.
Ah non, tu le vois en France. Et ceux qui produisent de l'énergie verte en France, EDF leur rachetait de l'électricité 20 centimes, 25 centimes le kilowattheure. Donc c'est extrêmement subventionné.
Bien sûr.
T'enlèves la subvention, t'as plus d'usines de méthanisation, de champs éoliens ou solaires qui naissent en France. C'est pas rentable.
Et vous, bah, du coup, est-ce que, parce que actuellement, est-ce qu'il y a des projets en cours qui se développent, qui vont dans ce sens-là, dans le monde, sur lesquels vous intervenez?
Partout. On a des demandes de partout, bien sûr. Parce que tu le vois, plus tu rencontres de centrales hydroélectriques, de gros champs éoliens, plus tu vois qu'il y a une extra-capacité qui est là, hein, qui est presque systématique sur presque tous les projets.
Et à cette image-là, est-ce que tu vois que le gas flaring, c'est quelque chose qui est... Parce qu'on en parle beaucoup. Et en fait, moi, là, ce que je vois, c'est que ça, c'est quelque chose qui pourrait être très embelli par rapport à vraiment l'impact que ça a et à quel point c'est utilisé par les mineurs. Est-ce que toi, tu vois vraiment le gas flaring comme étant quelque chose qui déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà beaucoup fait dans l'industrie aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va venir à se développer? Ou est-ce que c'est plus une manière d'imager le débat autour de l'écologie et du mining?
Non, tu as une vraie ressource qui est gaspillée là, dans le gas clearing. Alors, on ne peut pas mettre du mining sur tout le gas clearing. Hein. Moi, j'en parle beaucoup avec les pétroliers depuis longtemps. Hein. Dans plein de cas, ils doivent brûler le gaz. Tu ne peux pas bouger les équilibres de pression et tout ça. Mais il y a des cas où, enfin, nous à Oman, on travaille que sur du gas clearing. Tu vois. Ils sont en train de construire le champ solaire, mais on n'est pas encore connecté au champ solaire. On travaille sur du gaz. C'est du gas clearing. En gros, ils ont un énorme champ pétrolier avec 200 torchères. Et le sultan a décidé que non, on n'allait pas faire brûler tout ce gaz pourri. Là, on allait créer une usine électrique à base de gaz. Donc, ils ont pris le gaz de ce champ pétrolier pour faire une grosse usine électrique de l'autre côté de la montagne pour alimenter la ville. Sauf que l'usine électrique, elle est beaucoup trop puissante par rapport à la demande locale. Et donc, ils veulent créer une grosse zone économique là, avec des data centers et tout ça. Donc, on commence par le mining. Et donc, bah, toute l'électricité qu'on leur absorbe, c'est des torchères qui s'éteignent de l'autre côté de la montagne. Tu vois. Et donc, ça a énormément de sens. Ce gaz-là, il faut bien en faire quelque chose. Hein. Ouais. Donc, s'ils le brûlent dans les torchères, on brûle mal le méthane. On rejette vraiment plein de saloperies dans l'atmosphère. Si c'est une centrale électrique ultra-moderne qu'ils ont. Elle est beaucoup, beaucoup moins polluante qu'une torchère, évidemment. Donc, c'est une solution qui est hyper intéressante. Ouais.
À voir si elle se développe. Ouais. C'est vrai qu'on
ça se développe.
Ça, hein, se développe.
Ça c'est indéniable. Hein. Si tu veux, normalement, les pétroliers doivent payer des amendes de dingue ouais. quand ils font... Alors, j'en ai parlé avec des pétroliers, ils me disent oui, sur le papier, on paye des amendes, mais en fait, on ne les paye jamais. Mais si cette épée de Damoclès sur le fait d'avoir de grosses amendes fait qu'ils s'interrogent quand même. Donc, si, il y a de plus en plus de compagnies pétrolières qui cherchent leurs mineurs. Ouais.
Et d'ailleurs, des compagnies pétrolières, on commence à entendre parler des gros acteurs dans le milieu des hydrocarbures, commencent à s'intéresser au mining. Je ne vais pas te demander si tu vois ça comme une bonne ou mauvaise chose, mais est-ce que tu penses que c'est des initiatives qui ont du sens pour toi, que ces acteurs, il me semble que c'est Shell ouais. qui avait annoncé son...
Ah oui, ça, bien sûr que ça a du sens, ça veut dire que ouais, ils savent qu'ils ont un gaz là qui n'est pas valorisé, et d'un seul coup le mining peut leur permettre de le valoriser un petit peu. Ouais. Il y a quelque chose à travailler, ouais. Je suis convaincu que beaucoup moins de pollution par le gas flaring va se produire dans les années à venir grâce au mining, ouais, j'en suis convaincu, ouais. C'est une solution qui est vraiment parfaite. Alors ça ne s'adapte pas à tout, encore une fois, des fois ils ont des contraintes techniques où la torchère est la seule solution, ils ne peuvent pas discipliner leur gaz, tu vois, ils partent avec tout un tas de déchets, c'est pas du gaz qui est brûlable autrement que pour l'envoyer dans l'atmosphère.
Et sinon, bah, sur un sujet un peu différent, on avait évoqué ensemble une fois les difficultés des fois de se connecter à Internet pour tes usines, enfin tes fermes.
C'est un vrai problème, oui.
Et je sais que moi, on avait parlé ensemble une fois de Starlink. Et notamment aujourd'hui, on est au BEF où on a eu des difficultés à accéder à Internet. Starlink n'a pas pu nous sauver, mais malgré tout, ça a pu avancer des discussions sur le sujet. Et est-ce que, par exemple, cette technologie qui est assez nouvelle permet aujourd'hui d'aller chercher des énergies qui sont encore plus reculées? Est-ce que ça offre des possibilités nouvelles?
Ah bah oui, c'est au-delà du mining, hein, ce qu'est en train de faire Musk là pour l'Afrique, c'est un pas de géant, quoi. C'est-à-dire qu'il amène une connectivité de très bonne qualité dans des coins où t'as pas internet du tout aujourd'hui, quoi. Nous, on a internet au Virunga avec deux grosses antennes satellites, ça marche très très peu, c'est pas la bonne latence, ça coûte une fortune et on est obligé d'en avoir deux parce que des fois, ça nous est arrivé, c'est un ouvreur de ligne belge, hein, qui nous fournissait notre internet. Au début, on n'avait qu'une antenne. Et un coup, ils ont coupé tout l'internet pour tout le nord qui voulait. On dit, mais pourquoi nous? Ah ben parce qu'il y en a qui payent pas. Mais voilà, donc c'est aléatoire. Et là, d'un seul coup, avec Starlink, ça fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Donc là, nous, on a fait des tests. Et la problématique, c'est que les pays ne donnent pas les licences à la société Starlink pour qu'ils commencent. Mais les satellites sont prêts.
Les satellites sont prêts et de toute façon ils orbitent la Terre, donc en soi c'est vraiment une décision gouvernementale de pouvoir ensuite verrouiller l'usage de la technologie.
Je pense qu'il y a besoin de stations de réception au sol, mais en tout cas nous on sait au Rwanda ça fonctionne et donc du coup on a testé au Congo, ça fonctionne. Ouais.
Ok. D'ailleurs il y en a une, il me semble proche d'ici, de station au sol, Starlink, parce qu'il y en a une en France et il me semble qu'elle est proche de la Bretagne, donc effectivement ouais, c'est... Ça va dans ce sens-là. Ouais.
Enfin, nous, Thomas a testé, c'est sidérant la différence. Ouais.
Et donc, d'ailleurs, est-ce que tu parlais peut-être de latence? Parce que donc, c'est ça qui est plus intéressant pour vous, c'est la latence plus que le débit. En tout cas, est-ce que on peut miner sur tout type de connexion Internet?
Je te dis, nous, on avait jusque-là, au Virunga, on avait quand même une assez grosse ferme maintenant, et avec une connexion Internet vraiment pourrie, quoi. Ouais. À tout niveau, la performance était mauvaise, on arrivait à miner quand même. On n'était pas les mineurs les plus performants. Parce que t'as trop de temps de communication.
Ouais. Ok.
Mais t'arrivais quand même. C'était l'avantage de cette industrie-là, c'est que c'est pas comme les donneurs d'ordre du trading, tu vois, par exemple, l'autre fréquence, où là, ils ont besoin d'une connexion parfaite, d'être le plus près possible des centres de décision, parce que c'est à la milliseconde. Mm-hmm. Dans le mining, c'est beaucoup plus tolérant.
Et un autre sujet qui me vient en tête, c'est celui des améliorations dans le protocole des protocoles de minage. C'est des niches pour l'instant. On en parle un peu, je sais que c'est des sujets que nous on évoque, notamment avec Découvre Bitcoin, c'est Stratum V2. Est-ce que c'est un sujet que tu maîtrises?
Pas du tout, mais bizarrement je me suis un peu intéressé. C'est moi de la partie technique dans la boîte, c'est pas moi, mes trois associés sont ingénieurs. J'ai pas besoin de m'en occuper.
Moi non plus, j'ai pas une connaissance parfaite, mais c'était vraiment par pure curiosité pour savoir si ça avait ou en tout cas si c'était quelque chose que vous regardez et si ça avait un intérêt pour vous de chercher ça. Enfin de...
Non, là, je ne saurais pas te répondre. JF, tu dis quoi?
Pas encore.
Pas encore.
Okay. Non, mais très bien. C'est ma réponse qui me va aussi. Et écoute, voilà, moi, c'est en tout cas, je pense, les questions qui me viennent à l'esprit que j'ai sur le mining. Pour quelqu'un qui travaille à des plus grosses échelles. Est-ce que t'as autre chose que tu voudrais partager à l'audience sur le mining et justement les fausses idées qu'on s'en fait? Parce que voilà, c'est nébuleux pour beaucoup de gens. Je pense que quand on parle de mining pour des gens qui ne sont même pas dans l'écosystème Bitcoin, pour eux, c'est d'autant plus dur de l'appréhender. Est-ce que toi, il y a des choses que je sais que tu répètes parfois des choses parce que...
C'est surtout vis-à-vis des mineurs à domicile là, qui vous écoutent, hein. C'est qu'on n'a pas plus de vision intelligente que de ce que sera le mining, quoi. C'est l'aventure, hein. On est dans une aventure inédite, Eux, ils pensent que nous, on sait où on va mieux qu'eux, mais pas du tout. Ça reste une aventure. Et donc, moi, je le dis toujours, il n'y a qu'une garantie, il n'y a qu'un truc qui nous rassure, c'est d'acheter une électricité pas chère. Et se dire que le mining existe depuis 13 ans, 14 ans, 15 ans, et que... on est en combien là? Ouais, 14 ans. Et que, il y a toujours des mineurs. Donc, si tu fais partie des bons mineurs, avec les bonnes conditions, il faut pas trop charger en coûts, de personnel, tous les coûts. Et surtout l'électricité. C'est vraiment le nerf de la guerre. À notre idée, hein.
Bien sûr.
On sait qu'on a des copains, qu'on apprécie beaucoup, et qui préfèrent aller miner, je dis n'importe quoi, en Islande avec du jus à 5 ou 6 centimes. Mais, dans une tranquillité, totale. Plutôt que d'aller prendre des risques, comme nous on fait, pour avoir une électricité un peu moins chère. Nous, on pense que ces petits centimes d'écart au kilowattheure font toute la différence sur la pérennité du mining à long terme. Mais pour le reste, ce que tu me disais tout à l'heure, comment va évoluer le hash rate, comment va évoluer la technologie, comment va évoluer l'acceptation de Bitcoin par les autorités dans le monde, on est comme tous les autres, on n'en sait rien de plus. Voilà, il n'y a pas de boss qui détiennent des clés que la plèbe n'aurait pas dans le mining. On est tous au même niveau à peu près. C'est ça que je voulais dire.
Ouais, okay.
Et donc on est tous des mineurs, que tu aies un S9 chez toi, un S19, ou que tu en aies 5000 ou 10000 ou 50000 comme les gros mineurs américains. Tu as des petits mineurs qui sont bien plus compétents, bien plus pointus que d'énormes mineurs comme Corps Scientifique, c'est ce qu'on a vu. Ouais. Voilà. Donc c'est une bataille ouverte, en tout cas on est à la fois tous concurrents et à la fois on a tous beaucoup de respect les uns pour les autres parce qu'on est tous dans la même aventure.
Exactement. Et bah moi j'ai peut-être une dernière question qui est figée un peu dans l'actualité parce qu'on a vu quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant, c'est-à-dire des frais de transaction cumulés qui dépassent la récompense de bloc, avec je crois un bloc qui a atteint plus de 12 bitcoins de récompense totale.
12,5 je crois. Ouais.
12,5 c'est ça.
Bah oui, et... parce qu'il y avait un peu plus de fees que de rewards, donc ça faisait dépasser 12,5. Ouais. Parce qu'il y a 6,25 de rewards.
Ce qui est assez incroyable. Et du coup, est-ce que ça va être une situation pérenne? On ne sait pas, on peut spéculer sur
ça. Ça a déjà beaucoup baissé.
Exactement. Ouais. Donc,
ça a été ponctuel.
Mais est-ce que vous, c'est des choses qui sont rentrées en ligne de compte? Est-ce que vos gains ont augmenté sur des brèves périodes de ce fait-là?
Alors oui, on n'a pas misé dessus, hein, mais j'ai interrogé les gars, j'ai dit oui, effectivement, c'est mieux. Alors c'est pas mieux pour tout le monde parce que en fait c'est les pools qui se sont gavés, pas les mineurs.
D'accord.
Parce que pour beaucoup de pools, ça dépend des conditions de chaque pool et ça dépend des conditions que tu traites toi avec les pools. Mais tu peux tout à fait avoir une redistribution que des rewards. Et c'est très souvent comme ça, les pools. Donc en fait, t'es là, tu dis, putain, génial, les mineurs se gavent, on entend ça à la télé, puis tu regardes, non, en fait, toi, tu t'es pas plus gavé que d'habitude. Voilà. Donc nous, c'est pas le cas, ça dépend sur quelle ferme. Mais en tout cas, on s'en est pas mal sorti, mais rien à voir avec un x2, tu vois. On avait certains de nos clients, on a reçu des messages sur le groupe Telegram, et on n'a pas touché beaucoup plus que d'habitude, c'est déjà pas mal, mais on pouvait pas donner plus, ça n'a pas fait x2, quoi. Ça a fait x2 sur un bloc, comme tu l'as dit.
Et d'ailleurs, généralement, le choix de la poule se fait sur le type de récompense et la manière dont elle est distribuée.
Et aussi avec ce qu'il te donne en termes de contrôle, de comment on appelle ça, de monitoring.
Ok.
Et puis de performance. Nous, par exemple, au Virongat, tant qu'on avait que notre vieux système internet avec peu de débit et tout ça, on est obligé d'avoir des proxys. Il n'y a que Brains qui était en capacité de nous offrir un vrai service, quoi.
Ouais, ok.
Donc je sais que JF, il a un vrai partenariat avec les ingénieurs de Brains, que il y a du costaud chez eux. Hein, et voilà, nous, c'est cette poule-là pour les Virongas, mais on n'a pas forcément la même au Paraguay ou à Oman, tu vois.
Et est-ce qu'on parle de Brain Farm Proxy? C'est quelque chose du genre. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je vois sur le site de Brains. Il y a une section qui, je vois, s'adresse beaucoup plus à des gens comme toi qu'à des gens comme moi.
Ah, il y a des gens comme eux plutôt, aux ingénieurs chez nous, ouais.
Exactement, et du coup, moi, effectivement, je vois quelque chose qui s'appelle Farm Proxy, donc c'est peut-être ça que j'ai vu.
C'est ça.
C'est ça, ouais. Excellent.
En tout cas, nous, on n'aurait pas eu Brains pour les Virongas, c'était plus compliqué. Mmh. Ça, c'est vraiment des acteurs qui nous ont été utiles et puis on a un bon partenariat avec eux. Mais on n'a pas forcément besoin d'eux sur d'autres sites où c'est plus facile, où on a un super internet et tout.
Bien sûr. Bah, pour exprimer la nuance et du coup sur le choix des récompenses et effectivement pour quelqu'un qui mine à la maison et quelqu'un qui mine à des grosses échelles, les considérations sont différentes. Par exemple, moi, j'ai, avec notre projet Atakai, j'ai fait une explication des pools et sur les systèmes de récompense et lesquels choisir pour le chauffer à la maison. Et c'est vrai que nous, notre choix se fait plutôt basé sur la récompense minimum qui peut être retirée. Parce qu'en fait, on se rend compte que nous, dans notre cas, ben, en minant avec un S9 pendant un hiver, ben, en fait, on n'obtient pas forcément la récompense minimum qu'autorise la poule à être retirée. Et donc, du coup, il y a des poules qui sont qui permettent de retirer à des niveaux plus bas.
Certaines poules, tu minerais dans le vide, en gros.
Exactement.
Et d'autres te permettent de quand même retirer un peu de récompense. Ouais, bien sûr, non, mais vraiment, les poules, d'abord, il y a une immensité de choix. Hein. C'est chouette. Et surtout, très souvent, les observateurs extérieurs disent les poules, il y a une poule qui a 51%, 55% du mining et tout, on s'en fout parce que le gros leader du moment, ça sera plus du tout le même dans 2 ans et il n'existait même pas il y a 2 ans et demi, tu vois. Et ça tourne en permanence comme ça.
La dominance des poules, effectivement, est très fluctuante.
Oui, parce que c'est totalement libre, hein, tu changes de poule quand tu veux, sans préavis, tout ça. Donc celui qui a la meilleure offre devient le plus gros l'espace de 6 mois, c'est tout à fait, ou 3 mois.
Est-ce que. Avoir votre propre pool, ce serait quelque chose d'envisageable?
Ah bah
est-ce que
oui.
Ce serait quelque chose de logique?
Oui.
Est-ce que bah, peut-être que c'est quelque chose que vous cherchez à faire?
Ah bah on le cherche depuis le début. Dès 2017, sur notre site internet de BuildBlock Data Center, on avait un logo avec une pool bleu-blanc-rouge. On voulait faire la French pool. Et en fait, c'est pour ça qu'on essaye de grossir pour pouvoir créer notre propre pool.
D'accord.
Et à chaque fois, le hash rate grossit plus vite que nous. Donc pour l'instant, il n'est pas envisageable de faire une pool avec le peu de hash rate qu'on a. Il faudrait qu'on arrive à peser... je sais pas, 0,5 ou 0,2% de mining mondial pour commencer à se dire, là, on a de quoi lancer notre propre pool et après aller convaincre des confrères de nous rejoindre.
Okay.
Donc, mais oui, c'est fabuleux d'être pool. Tu branles rien, là, t'es là, tac, tac, tu chopes tes fils, là. C'est génial, hein. Les mecs, ils ont des pools énormes, ils sont 5 dans un bureau en Chine avec 5 PC et c'est tout, quoi.
Yeah.
Et ils font plus de chiffre d'affaires que nous, là.
Ouais, je comprends.
Donc non, être une pool, c'est sûrement très, très intéressant. Mais si t'as ta base de mineurs à toi, qui fait que tu te retrouves pas sans client du jour au lendemain parce que tu as un nouveau zinzin, Binance, qui a lancé sa pool avec des frais gratuits pendant 3 mois, tu vois.
C'est ça.
Donc voilà, c'est ça le truc. Nous, ça serait intéressant. Il faudrait pour ça qu'on soit des Américains, qu'on puisse lever 1 milliard d'un coup.
Ouais.
Et là, on peut créer notre pool direct. On aura assez de containers.
Bah écoute, on espère que le futur vous permettra ça. On aimerait bien voir... ce type d'évolution, donc...
On sera jamais aussi gros que les mineurs américains, je te dis, qui peuvent en bourse lever 5 milliards comme ça, avec des clients qui savent pas du tout ce qu'ils font. Mais c'est dans tous les domaines, c'est plus facile de lever des fonds aux États-Unis que chez nous. Mais voilà, nous on grossit à notre rythme parce que notre réputation est bonne. Maintenant, ça fait pas loin de 7 ans qu'on est là et voilà, les gens savent qu'ils peuvent nous faire confiance. Ouais. Puis on est devenu un très gros broker international aussi. Ça, les gens le savent pas parce qu'on n'en parle pas. Mais parce que tu vois bien, acheter des ASIC, c'est compliqué. Tu as vite un problème de confiance qui peut se poser. Et bon, ben nous, on sait acheter des machines, les livrer. On a un vrai pôle logistique qui fonctionne bien. Et donc, on vend des dizaines de milliers de machines à des confrères en Russie, partout, quoi. Voilà. Et là, on est un gros broker. Autant on est un tout petit mineur, autant on est devenu un gros broker.
Mais écoute, excellent. Mais en tout cas, c'est super pour, je pense, pour l'audience, pour nous, d'avoir l'opportunité de pouvoir parler à des acteurs francophones du mining. Parce que, effectivement, moi qui ai voulu m'y intéresser, on est souvent un peu plongé dans tout ce qui se passe ailleurs, parce qu'en fait, il se passe pas grand chose ici. Mais on voit que quand même si, même si ça se passe pas sur notre sol, en tout cas, il y a des gens, il y a des Français qui sont dans l'aventure.
Ouais, on n'est pas les seuls en plus. Hein. On a deux, trois, je pense à Cesters, là, Youssef, il fait un boulot fabuleux, mais il est très discret. Mais voilà, il y a des Français qui développent le mining dans le monde et qui ont une bonne réputation. Moi, on n'est pas les seuls. Ouais. Donc la France a toujours été vachement en pointe sur le Bitcoin. Hein. Si on avait des autorités un peu plus ouvertes, on serait les leaders mondiaux, bien sûr, on le sait, hein, avec Ledger, la maison du Bitcoin. Enfin, on avait vraiment un temps d'avance sur toute l'Europe, en tout cas. Ouais.
Excellent.
Et donc, bah, il en reste quelques traces, tu vois. T'as quelques Bitcoiners français dans le monde qui sont connus. Tu vois, t'as Nicolas Berthet au Salvador qui développe le Beach Valette, là. Ah, c'est des Français, on est vachement fiers de ça. Ouais.
Je pense qu'il faut continuer.
Merci.
En tout cas, merci à toi. Merci parce que je pense que c'était une, une belle manière d'avoir une vue d'ensemble du mining. Nous, on espère que à travers différentes interviews et discussions sur ce sujet, on a réussi à dégrossir un sujet qui peut sembler complexe et qui, je pense, au final, l'est pour beaucoup de personnes. Et donc, merci beaucoup de ton intervention. Bonne continuation aussi à tes entreprises. Et on espère que le hashrate, votre hashrate va grossir et pouvoir te recevoir encore une nouvelle fois sur notre podcast de la ligne orange.
Ok, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait un plaisir et donc à bientôt.
Merci Sébastien.
Merci.
Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreons, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.